Le journal, c'est avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Le président déchu du Zimbabwe, Robert Mugabe, joue les troubles faits avant la présidentielle du jour. Il pourrait voter pour l'opposition. Le pays vote pour tenter de sortir d'une lourde crise économique. Nous y reviendrons.
Un accord économique sur le Brexit semble toujours incertain. Et alors que le ministre des Affaires étrangères britannique entame une tournée en Asie et en Europe sur le sujet, certains intellectuels s'inquiètent d'une possible pénurie de nourriture et de médicaments dans le pays. C'est ce que nous dira notre correspondante à Londres.
Et puis, comment faire face au manque de pilotes de ligne ? Face à la hausse du trafic aérien, il faudra en recruter 650 000 à travers le monde d'ici 2036. Et il y a très peu de candidats, nous vous expliquons tout cela. Ce sont les élections de tous les espoirs et sans doute de tous les dangers. Au Zimbabwe, la population se rend aux urnes ce lundi pour élire son nouveau président, mais aussi les membres du Parlement et ses représentants locaux. Un scrutin historique, puisque c'est le premier pour lequel Robert Mugabe ne s'est pas présenté. L'ancien héros de la libération, devenu despote, a dû quitter le pouvoir en novembre dernier après une intervention de l'armée. 55 partis politiques et 23 candidats participe donc aujourd'hui à cette présidentielle, Lisa Fabian.
Dans un pays à l'économie sinistrée, cruellement touché par le chômage et par une sévère pénurie de liquidités, le désir de changement est sur toutes les lèvres. Trouver enfin un emploi, pouvoir retirer de l'argent à la banque, ce sont deux souhaits simples sans cesse répétés par les Zimbabwéens. Mais la partie s'annonce serrée. Le parti majoritaire, la ZANU-PF et le MDC, le principal parti d'opposition, sont au coude à coude dans les sondages. La venue d'observateurs internationaux dans le pays n'a pas dissipé les soupçons de fraude. Pourtant, l'avenir est conditionné par la crédibilité de ce scrutin qui doit permettre de tourner définitivement la page Robert Mugabe et inciter au retour des investisseurs étrangers dans le pays. Ce dimanche, le président déchu est justement venu jouer les troubles faits. Lors d'une conférence de presse à Harare, Robert Mugabe a annoncé qu'il ne voterait pas pour le parti qu'il a fondé, ni pour ceux qui l'ont maltraité. C'était un coup d'État, a-t-il martelé, allant jusqu'à suggérer qu'il pourrait voter pour l'opposition.
Lisa Fabian depuis Harare, la capitale du Zimbabwe, pour France Culture. Ces élections-là ont eu lieu hier au Mali d'abord. Scrutin présidentiel marqué par quelques incidents dans une centaine de bureaux de vote sur plus de 23 000 dans le pays. C'était un scrutin crucial pour l'accord de paix de 2015, censé mettre fin aux dissensions et aux violences entre pro-gouvernement et rébellion Touareg. Les résultats sont attendus demain en fin de journée au plus tôt. Et puis au Cambodge, là, il y a peu de suspense. Le parti du Premier ministre revendique sa victoire aux législatives d'hier. Parti qui estime qu'il va remporter plus de 80% des suffrages, avec un taux de participation très élevé, 82%. L'opposition cambodgienne dénonce déjà la mort de la démocratie. Le nouveau chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt, entame aujourd'hui sa première grande tournée à l'étranger depuis la démission de son prédécesseur, démissionnaire Boris Johnson. Jeremy Hunt sera donc en Chine aujourd'hui, avant de se rendre en France puis en Autriche cette semaine. Il doit notamment aborder le sujet du Brexit. Brexit que certains anticipent en imaginant un scénario catastrophe. Manque de nourriture, de médicaments, de carburant. Cela pourrait arriver si aucun accord n'est trouvé avec l'Union européenne. Avec plus de 30% de ses produits alimentaires importés d'Union européenne justement, le Royaume-Uni commence à envisager des solutions, Élodie Goulesque.
Des prix plus élevés et des camions remplis de biens périssables bloqués à la frontière. Voilà ce qui attend les Britanniques en cas de no deal. Un scénario catastrophe qui, selon Eric Milstone, professeur à l'université de Sussex et expert en politique alimentaire, est justifié.
Il n'y a pas la capacité de stocker des denrées périssables au Royaume-Uni dans le laps de temps qu'il nous reste avant de décider un Brexit dur ou un no deal. Donc je pense que le gouvernement ne gère pas le problème de façon intelligente.
Theresa May et son gouvernement ont lancé des études pour anticiper le risque de pénurie de nourriture et médicaments en consultant ses services de santé et les patrons de l'agroalimentaire. Une façon de rassurer l'opinion publique, même si selon Eric Milstone, il n'y a qu'une solution.
The only solution to avoid this problems of supply shortage.
La seule solution pour éviter ces pénuries est de rester au minimum dans l'union douanière et aussi dans le marché unique.
Mais il s'agit là justement des points de friction entre partisans d'un Brexit dur et pro-européens au sein du gouvernement. Difficile donc d'anticiper quelles seront les réelles conséquences du Brexit à ce niveau-là, puisque 2 ans après le référendum, Theresa May et son cabinet n'ont toujours pas réussi à trouver un accord à présenter aux négociateurs européens.
Nouvelle série de messages cinglants de la part de Donald Trump sur Twitter. Il s'en est pris cette nuit au procureur spécial Robert Mueller, l'accusant d'avoir des conflits d'intérêts après une relation d'affaires très mauvaise et très conflictuelle, a écrit le président américain. Cela devrait donc, selon lui, interdire le procureur de mener une enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Et puis en bref, encore plus de 500 randonneurs sont bloqués ce matin sur l'île de Lombok en Indonésie, au mont Rinjani. Tous ont été surpris par un puissant séisme qui a eu lieu hier et qui a provoqué des glissements de terrain. Au moins 16 personnes n'ont pas survécu. Des centaines de maisons ont été détruites.
Vous écoutez France Culture, il est 7h06. Zoom à présent sur le manque de pilotes dans le transport aérien.
Il y a un an, la compagnie aérienne Ryanair avait été obligée de supprimer plusieurs dizaines de vols à cause du manque de pilotes. Les compagnies aériennes sont un an plus tard quasiment toutes à la recherche de personnel pour piloter leurs appareils et elles ont toujours du mal à recruter. Explication chiffrée ce matin avec vous, Philippe Lefebvre.
Le problème est simple, on observe aujourd'hui une hausse annuelle du trafic aérien de 4,5% et pour y faire face, les compagnies achètent de nouveaux avions et fatalement, ces compagnies doivent dans le même temps recruter de très nombreux nouveaux pilotes. Pour vous donner un ordre d'idée, quand une compagnie achète un avion comme un Airbus A350 ou un Boeing 787 Dreamliner destiné au vol long courrier, eh bien il faut embaucher 25 pilotes pour le faire voler le plus possible et rendre cet avion rentable. Et chez les constructeurs d'avions, on estime à 650 000 le nombre de pilotes à recruter d'ici 2036. Du coup, tous les moyens sont bons pour trouver ces nouveaux pilotes. Air France a relancé sa filière cadet, une formation de 100 000 euros par élève payée par la compagnie qui propose également un salaire de 1200 euros à chacun d'entre eux durant leur formation. Et dans ce domaine, les autres compagnies ne sont pas en reste. En Chine, on double les salaires. La compagnie russe Aeroflot propose des primes de bienvenue. Et chez Iranair, ce sont les femmes qui pourront désormais prendre les commandes des avions de la compagnie iranienne.
Sur les rails, il manque des trains ce lundi encore. Au départ ou en direction de la gare Montparnasse à Paris, un train sur deux circuleront seulement. Pas d'amélioration donc 2 jours après l'incendie d'un poste électrique. L'électricité devrait être rétablie demain soir au plus tard, dit la SNCF. Alexandre Benalla affirme avoir plutôt envie d'aller donner des explications aux commissions d'enquête parlementaires. Dans le journal du dimanche publié hier, l'ancien collaborateur de l'Élysée, mis en examen après des violences le 1er mai dernier, il affirme donc avoir proposé de démissionner après ce rassemblement et ces violences filmées. Au Sénat, cependant, le président de la commission d'enquête a déjà refusé de le convoquer. Philippe Bas estime qu'un mis en examen n'a pas à témoigner à charge contre lui-même. Le congrès mondial sur la maladie d'Alzheimer vient de s'achever à Chicago, aux États-Unis. Un congrès suivi pour nous par Daniel Messager. Et cette année, une étude laisse espérer une avancée, alors que depuis des années, les différents essais sur des médicaments se soldaient toujours par des échecs, Daniel.
C'est la première fois depuis des années d'espoir déçu que les chercheurs et les médecins réunis lors de ce congrès mondial affichent un certain optimisme. Un essai mené par un laboratoire japonais lors d'une étude incluant un grand nombre de malades, 854, montre l'efficacité d'un médicament. Le professeur Bruno Dubois, chef du service des maladies cognitives à la Pitié-Salpêtrière, assistait à cette présentation.
C'était un résultat très attendu. C'est un médicament dirigé contre la protéine amyloïde, cette fameuse protéine qui se dépose dans le cerveau des patients. Et sur 18 mois, ils observent de façon intéressante qu'avec la dose la plus forte, il y a 2 choses. D'abord, il y a une diminution importante des lésions dans le cerveau des patients, mais ça, on l'avait déjà observé avec d'autres médicaments, donc on est content, mais sans plus. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet sur les symptômes eux-mêmes et il y a une réduction, une diminution du déclin cognitif qui est quand même assez significatif puisque avec la dose la plus forte, il y a 47% de réduction de ce déclin cognitif.
Il va évidemment falloir confirmer ces résultats avec d'autres essais, mais pour les scientifiques, le fait qu'il y ait des signes d'amélioration cognitive sur un nombre important de malades est un encouragement à poursuivre la recherche. Ils étaient nombreux à ne plus y croire ces dernières années.
Le temps de ce lundi qui débute, gris sur le nord-ouest et notamment pluvieux du nord de l'Aquitaine jusqu'à la Normandie, et plutôt ensoleillé partout ailleurs avec une vigilance canicule encore sur quatre départements, l'Ardèche, la Drôme, le Rhône et les Pyrénées-Orientales. Les températures donc se rafraîchissent au nord mais pas au sud, comptez ce matin 19 degrés à Brest, 24 à Lille, Paris, 28 degrés à Besançon et Lyon et déjà 30 près de la Méditerranée.
Merci Clara Le Coq-Réal, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.